Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous connaissez certainement cette remarque de Mgr Lefebvre, où il disait qu'il avait connu, dans le XXe siècle, trois guerres mondiales. La 14-18, la 39-45 et la 62-65, Vatican II. Et la remarque est très juste, la guerre 14-18, ces trois guerres mondiales ont été trois étapes décisives pour amener le mondialisme et le chaos dans lequel nous entrons toujours plus profondément. 14-18 a permis un coup de main, un coup de maître dans la prise économique du monde. 39-45 va perfectionner le problème avec une prise ensuite politique et juridique du monde. Et puis 62-65, c'est la décadence, la prise des âmes, la prise des esprits par la religion, en diminuant la vraie, en éclipsant la vraie et en créant une autre, un paravent. Une religion humaniste et fausse. Et tout ça pour nous conduire au chaos et bien sûr cette circonstance aujourd'hui avec cet évangile de la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin de l'histoire. C'est le jugement exercé par le Christ qui a été rejeté par les hommes. C'est le jugement du Créateur envers ses créatures. C'est le jugement du Rédempteur crucifié par ses créatures, par ses hommes pécheurs, par nous, hommes pécheurs. Et l'Écriture parle de ce jour comme du grand jour de sa colère. Mais lorsqu'on nous parle de la fin des temps, on a facilement tendance à se laisser impressionner par le spectaculaire des expressions qui sont décrites par l'Écriture sainte, au point de ne plus voir le fond de vérité qu'elle porte. L'Apocalypse, quand il parle de cette fin des temps, parle de tremblement de terre, parle d'un soleil qui est noir. Il parle encore d'une lune qui est pleine de sang ou des étoiles qui tombent du ciel. Et l'Évangile, nous venons de l'entendre, nous parle de l'abomination de la désolation dans le temple, dans le lieu saint, d'une grande tribulation, de faux Christ, de faux prophètes, de prodiges qui induiront en erreur les élus si cela se pouvait même, et encore de nouveau le soleil qui s'obscurcit, les étoiles qui sont, les cieux qui sont ébranlés. Bref. Alors on entend souvent ces descriptions cosmologiques dans le sens premier. Alors, elles auront peut-être lieu, mais pas nécessairement. Elles sont là avant tout pour nous donner une image, pour illustrer avant tout des réalités sociales et humaines. Quand on parle de tremblement, ce n'est pas d'abord le tremblement de la terre, c'est le tremblement des institutions, etc. Le soleil, donc, si on ne comprend pas cela, eh bien, on ne comprend rien. Le soleil noir, ça désigne une éclipse. Alors on lève les yeux et on voit bien, le soleil n'est pas noir. Alors on en déduit faussement que ce signe, c'est pour plus tard, que ce signe n'est pas réalisé ou ne se réalise pas, puisque le soleil n'est pas noir. Et ainsi, de tous les autres phénomènes. Apparemment, les étoiles, le soir, elles n'ont pas bougé, il ne se passe rien. Alors qu'en réalité, la plupart des étoiles sont déjà à terre. C'est sous nos yeux. Apparemment, la Terre ne tremble pas, mais comme je vous le disais, le séisme institutionnel, social, humain, il est constant. On rajoute tremblement sur tremblement de Terre, institutionnellement parlant, structurellement, humainement parlant, psychologiquement parlant. Alors toutes ces images cosmologiques sont donc des enseignements prophétiques de l'apostasie générale de la fin des temps, et donc du chaos humain, social, politique et religieux que cette apostasie va engendrer nécessairement. Le soleil noir, nous le disions, désigne l'éclipse de la vraie religion du Christ. Oui, je reviens sur le tremblement. Quand je dis un tremblement institutionnel, remarquez bien qu'aujourd'hui, on est presque en tout niveau, ou bien dans le contre-nature, que ce soit économique, que ce soit physique, que ce soit politique, médiatique, ou alors dans l'imposture, dans ces domaines-là. Donc le soleil noir, c'est évidemment l'éclipse de la vraie religion du Christ. Les étoiles du ciel qui sont ébranlées, qui tombent, désignent l'apostasie des chefs, de ceux qui doivent guider. Une étoile, c'est une référence qui ne bouge pas. Donc ce sont les chefs, aussi bien au spirituel qu'au temporel, aussi bien les évêques que les princes. L'abomination de la désolation dans le lieu saint désigne évidemment l'idolatrie qui a infesté le lieu saint, le temple de Dieu, c'est-à-dire le corps mystique du Christ, c'est-à-dire les chrétiens. Et ceci s'est réalisé principalement avec Vatican II et cette idéologie judéo-maçonnique qui a triomphé. Le tremblement de terre désigne cette révolution politique qui détruit eh bien, tout, à peu près tout, les nations et tout ce qui forme, tout ce qui est nécessaire à une civilisation, la famille et tout ce qui est autour de la famille, pour réduire peu à peu eh bien, les masses en esclavage, purement et simplement. Alors les hommes pouvaient-ils rejeter massivement Dieu sans récolter nécessairement le chaos sur terre? Évidemment non. C'est une conséquence nécessaire. Le chaos est une conséquence nécessaire de l'apostasie. Et je voudrais aujourd'hui apporter quelques réflexions qui, même si elles ne résolvent pas ce mystère d'iniquité que nous vivons, eh bien, peuvent nous aider à mieux le comprendre. Les plus clairvoyants, dont vous faites partie, savent pourquoi le monde va mal. C'est l'apostasie qui est universelle. Ceci est compris par quand même une bonne partie des gens. Mais peu vont accepter la conséquence nécessaire de ce constat, qui va être le chaos, qui va être l'absence d'autorité universelle, visible, sur terre, aussi bien au temporel qu'au spirituel. En 1974, dans un long article intitulé « Histoire et fondement de la notion d'autorité », l'éminent professeur de philosophie, M. Marcel Decorte, assez connu, un très bon chrétien, avait non seulement vu cela, mais expliqué cela. Donc pour ce brillant philosophe, la notion d'autorité est au cœur même de la crise planétaire. Non seulement dans la famille, le pays, mais disait-il aussi dans l'Église catholique qui a, je le cite, « d'un seul coup abdiqué toute autorité depuis le récent concile Vatican II ». Nous avons sous les yeux, dit-il, le spectacle prodigieux, fascinant, incroyable d'une Église sans obligation, sans sanction, d'une Église permissive où tout est dorénavant permis, où la loi surnaturelle et ses articles dogmatiques sont reniés, où la loi liturgique cède à tous les dérèglements, où la loi naturelle, entortillée dans les pires sophismes, a fait place aux plus dangereuses divagations de la conscience livrée à son propre arbitraire. Écoutez bien cette phrase, elle est de 1974, mais elle reste vraie. Il n'est plus personne dans l'Église qui sache ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire. Le principe du subjectivisme révolutionnaire a emporté la dernière digue. Or, disait-il, comme il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de société digne de ce nom sans autorité, il n'est pas étonnant de voir l'humanité vaciller sans cesse au bord de l'anarchie et de la révolution permanente. Alors il serait trop long de rapporter ici toute cette démonstration. Je ne donnerai ici que quelques-unes de ses remarques les plus importantes. Il établit tout d'abord que l'autorité, dans l'histoire, s'est toujours effondrée, et avec elle les communautés, évidemment, la société, lorsqu'elle ne reposait plus sur Dieu, mais sur, à ce moment-là, sur l'homme qui s'était délié de l'observation de la loi transcendante et qui exigeait de lui de bien obéissance au bien commun de la société, et donc au bien commun universel, et donc ultimement à Dieu. Tout est lié, c'est une chaîne. Vous la coupez, la chaîne tombera nécessairement. Cette autorité malmenée a été restaurée au Moyen-Âge par la féodalité et grâce au christianisme. Et il cite l'exemple en 494, le pape Gélase qui écrivait à l'empereur Anastase « Deux puissances dirigent le monde, ô empereur Auguste, l'autorité sainte des papes et le pouvoir royal ». Mais, vous le savez, la réforme protestante a miné et a refusé l'autorité de l'Église, puis c'est la Révolution qui a achevé l'œuvre de cette réforme hérétique. Alors l'État s'est substitué à l'Église. Ça c'est 1789. Mais ça ne va pas en rester là, la Révolution. On va le voir, c'est l'argent va se substituer à l'État. Et nous en sommes là, ce qui est la phase dernière, logique de la subversion. Marcel Decorte dit « La société, entre guillemets, politique moderne, engendrée par la réforme et définitivement accouchée par la Révolution française, n'est pas une société véritable. » C'est-à-dire qu'on l'appelle société, mais c'est faux. Le mot n'est pas juste. Alors il a créé un mot. C'est une dissociété. C'est une société en train de se corrompre. Voilà ce que nous sommes depuis 1789. Il n'y a plus de société. Il y a des dissociétés. La démocratie, dit-il, n'est pas et ne peut pas être un régime politique. Elle est une hérésie chrétienne. Elle est la caricature de l'Église. Vous voyez, l'État s'est fait Dieu, s'est fait Église. Car elle est la projection dans l'ordre temporel d'une structure sociale propre à la société surnaturelle qu'est l'Église, fondée sur Jésus-Christ, qui est une société de personnes, tandis que la société temporelle est une société de famille. C'est une différence, on n'a pas le temps de développer. Et qui n'est possible que dans l'ordre de la grâce. La démocratie libérale, dit-il, n'existe que grâce à l'État moderne, dont les pouvoirs sont illimités, puisqu'ils ne sont plus mesurés par les communautés naturelles ou semi-naturelles. Hein ? Vous savez qu'entre il y a nous et l'État, c'est monstrueux ça. Avant, il y avait toute une hiérarchie de communautés naturelles ou semi-naturelles. Les familles, les métiers et d'autres. Il y avait le clergé, c'est comme ça que la monarchie, il y avait le tiers-état, il y avait la noblesse, c'était des communautés semi-naturelles. C'est ça qui est organique et hiérarchique, c'est ça qui est vivant. Mais la révolution a cassé cela. C'est plus vivant. C'est monstrueux. Donc, elle n'est plus, ce pouvoir de l'État est délimité parce qu'il n'est plus mesuré par ses communautés naturelles ou surnaturelles, que la révolution a détruite au bénéfice, ou plus exactement, au maléfice des droits imprescriptibles et absolus de la personne humaine. Cet État, qui n'est plus le gardien du bien commun, qui n'est plus le mainteneur de la loi par excellence, qui subordonne les parties au tout, est désormais une puissance sans bornes, dont le rôle est de satisfaire les exigences sans bornes, à leur tour, des citoyens considérés individuellement ou dans leur groupe de pression, qui ne sont pas des groupes naturels. À cette fin, l'État moderne multipliera, dit Marcel de Cotte en 1974, mais c'était déjà évident à l'époque, l'État moderne multipliera ses règlements et les étendra jusqu'à l'extrême. Ces règlements étendra jusqu'à l'extrême le tissu de plus en plus serré de ces structures administratives et deviendra fatalement un État technocratique, donc déshumanisé, on est en plein dedans, qui conduira inexorablement, Marcel de Cotte, quand il utilise un adverbe ou un mot, il connaît la langue, il sait, c'est pas de l'exagération, c'est pas un journaliste. Donc, deviendra fatalement un État technocratique qui conduira inexorablement le monde vers le totalitarisme. Au nom de la liberté, mais peu importe. La réalité, elle est là. Deux éminents universitaires confirment ce jugement. En 2003, cet historien tout à fait sérieux et intelligent, Jean de Vigry, écrivait ceci. « Nous devons nous rendre à l'évidence. » La patrie a disparu de nos yeux, de même la nation. L'indépendance et la souveraineté sont les conditions nécessaires à l'existence d'une nation. Or, nous savons ce que l'européisme et le mondialisme ont fait de l'indépendance et de la souveraineté de la France. Depuis plus de deux siècles, c'est 1789, depuis plus de deux siècles sont persécutés dans notre pays ceux qui refusent de rendre un culte au mythe appelé droit de l'homme. La patrie disparue, la nation désagrégée, il reste l'État, comme Marcel de Cotte le disait. Et avec l'État issu des Lumières et de la Révolution, on ne fera jamais rien. Jamais rien. C'est pas possible. C'est contre nature. Les Vendéens et le comte de Chambord l'avaient compris. Un jour, peut-être, les Français le comprendront. Espérons que les Gilets jaunes le comprennent. En fait, il n'y a plus de France, dit Jean de Vigry. Et ce sont les gouvernements qui l'ont tué. Voilà la réalité. Autre témoignage, remarque, de Valérie Bugeaud, en 2018. Cette femme est une docteure en droit, tout à fait brillante, intelligente et qui casse les tabous. Et elle faisait le même constat et elle expliquait que depuis 400 ans, le droit commercial anglo-saxon, qui est porteur d'une philosophie individualiste, prédatrice, s'est imposé peu à peu au monde, cette logique. Ce système a été conçu et utilisé comme une arme de guerre pour s'emparer du pouvoir politique. L'économie anglo-saxonne, les règles économiques anglo-saxonnes ont été conçues comme une arme de guerre pour dominer le monde. Donc il y avait l'empire qu'on en voit avec les bateaux, et puis on met le drapeau anglais, et puis voilà, c'est l'empire. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont voulu aussi un empire mondial par les lois économiques. En tout cas, ceux qui gouvernaient l'Angleterre. Vous verrez qui c'est. Vous savez qui c'est. Et donc, le monde appartient aujourd'hui à une petite minorité, disait-elle, de banquiers commerçants, malins, rusés, ce sont ces termes, issus des orfèvres changeurs du Moyen-Âge qui avaient eux aussi créé des règles d'un gigantesque, qui ont créé les règles d'un gigantesque monopoly. Alors, le monopoly, c'est marrant quand on se détend le dimanche en famille. Mais quand le monopoly devient la réalité, ça devient très cruel. Et nous sommes dans un monopoly gigantesque, où logiquement, c'est la concentration des biens sur un seul, ou une minorité. Où les plus gros vont avaler les plus petits. Et ce, grâce à des lois qui ont été conçues pour cela, faites par des politiques, en fait complètement corrompues, aux ordres de l'économie, et qui vont permettre, dit-elle, l'anonymat, la concentration des capitaux d'un côté, puis la dérégulation financière et la libéralisation des flux de l'autre. Et maintenant, je la cite. Aujourd'hui, dit-elle, la monnaie ne sert plus le bien commun, mais des intérêts privés. La monnaie est aujourd'hui conçue, donc réfléchis comme ça, structurellement, comme un instrument de domination. Aujourd'hui, le pouvoir politique n'est plus qu'une émanation du pouvoir économique. C'est pour ça que je disais que Macron est un fonctionnaire de la banque, de la finance internationale. C'est pas un chef de nation. Qui se cache derrière les institutions étatiques, mais qui est aux mains d'une minorité financière, nomade, anonyme, apatride et cosmopolite. Alors tout ça, elle ne le dit pas, mais ça veut dire juif dans le langage courant. Oui. Mais comme elle fait un livre propre que tout le monde puisse comprendre, elle a utilisé ces adjectifs qui les désignent. Une minorité financière, nomade, anonyme, apatride et cosmopolite. L'État français, dit-elle, techniquement, fonctionnellement, n'existe plus. Donc même l'État a disparu. En 1789, c'est l'État qui a détruit tout. Et l'État s'est fait détruire à nouveau par une mafia financière. L'État n'existe plus aujourd'hui, 200 ans après la Révolution. On en parle beaucoup, mais il n'a aucune souveraineté. C'est parler de quelque chose qui a disparu depuis un certain moment. C'est flagrant depuis les institutions européennes, mais c'est vrai depuis les 150 dernières années. Donc même constat que le philosophe, même constat que l'historien. L'élément clé à garder en tête et à comprendre, c'est que le pouvoir politique en Occident n'existe plus depuis le siècle des Lumières. Dans le nouvel ordre mondial, les chefs réels sont anonymes, donc irresponsables, car ils n'ont pas de compte à rendre. Ils sont donc sans limite totalitaires. C'est ce que disait Marcel de Corte. C'est inexorable. Et maintenant, je vous rappelle quelques citations que je vous avais déjà faite, celle de 1881 du chanoine Arminjon. Il disait ceci: « Lorsque la foi chrétienne aura achevé de s'éteindre dans les cœurs, lorsque la jouissance et le bien-être seront devenus les dieux du jour et l'exclusive préoccupation des âmes, l'exclusive préoccupation des âmes, alors l'or, l'argent, primera la religion et la morale. Et il deviendra la base de la politique et la clé de voûte de toutes les institutions. Les financiers seront les rois et les pontifes. Les rois et les pontifes. Et le peuple qui possédera le plus d'or sera celui qui nous possédera prochainement. » Ce peuple, il l'expliquait après, c'est Israël. À ce phénomène de chaos politique temporel, de dissolution, s'est ajouté, depuis Vatican II, et je reprends maintenant Marcel de Corte, eh bien la dissolution religieuse. Il parle de la décomposition de l'Église. En s'ouvrant, dit-il, au monde moderne, au monde de la réforme, de la révolution, au monde du libéralisme et du socialisme, en présentant la démocratie comme le prolongement temporel de l'Évangile, c'est ce qu'on entendait et ce qu'on entend encore dans le discours, eh bien, l'Église catholique officielle, c'est ce qu'il dit, aujourd'hui on dira la secte moderniste, mais à l'époque c'est en 74, c'est sous Paul VI, il dit, l'Église catholique officielle a non seulement déclenché l'autodémolition de l'Église, mais elle s'est aussi mue en agent de destruction des sociétés que la nature de l'homme avait édifié, que l'autorité et de l'autorité qui les couronne. Elle réitère l'aventure de la réforme et elle sacralise la révolution. Elle anéantit le fondement même de l'autorité et de la sienne propre. Alors, depuis Vatican II, vous le savez, tous ceux qui sont assis sur le siège de pierre ont mené cette politique de subversion révolutionnaire. Et ça pose un problème énorme, évidemment. Tous, de Jean XXIII à François, ont été des, pour reprendre les termes de Marcel de Corte, des agents de destruction de la société. Et comment est-ce possible? Ils ont tous pris comme boussole Vatican II, qui, un franc-maçon le disait lui-même, Vatican II a pour la première fois placé le principe de la liberté en matière religieuse au-dessus de l'obligation objective de connaître et de répandre la vraie religion. Donc tout cela ont favorisé l'indifférentisme, hein, vous le savez, et l'interconfessionnalisme, le communisme. Or, Léon XIII disait de ces principes, qui dataient déjà du XIXe siècle, Léon XIII disait que ce principe suffit à ruiner toutes les religions, et particulièrement la religion catholique, car étant la seule véritable, elle ne peut sans subir la dernière des injures et des injustices tolérer que les autres religions lui soient égalées. Tous ces faux pontifes se sont appuyés sur la Déclaration des droits de l'homme, sur la liberté de conscience que le pape Grégoire XVI appelait une maxime fausse, absurde et un délire. Alors toute cette situation chaotique religieuse peut se résumer à deux citations, celle du cardinal Ratzinger et celle de Mgr Lefebvre. Ratzinger, futur Benoît XVI, et explique, vous le savez, elle est connue cette citation, à propos de Gaudium et Spes, c'est un contre-syllabus, dit-il. Dans la mesure où Vatican II représente une tentative de réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il est depuis 1789. Voilà ce que Ratzinger décrit et assume de Vatican II. Et Mgr Lefebvre, qui, lui, parlait d'une contrefaçon d'Église. Non seulement, disait-il, ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Et il disait, ce n'est plus l'Église catholique. Donc on retrouve l'idée du soleil noir et de l'éclipse. C'est marqué Église catholique, mais ce n'est plus l'Église catholique. C'est marqué État français, mais ce n'est plus l'État français. Vous voyez combien la contre-nature et l'imposture est partout, et les apparences sont trompeuses. C'est le tremblement de terre pourtant. Alors dans ces conditions, comment prétendre à l'existence d'une autorité légitime aujourd'hui, souveraine? L'autorité légitime souveraine ne peut être que divine. Elle est dans la personne du pape, vous le savez. Et elle n'est point divine si elle n'est pas infaillible. Ces officiels, pour reprendre les termes de Monseigneur, n'enseigne plus la foi catholique. C'est autre chose. Or, dit autrement, comment prétendre que François peut être une autorité infaillible lorsqu'il canonise lui-même Jean-Paul II, qui, au dire de Mgr Lefebvre, était un homme inspiré par le diable et au service de la maçonnerie. Donc, sans l'autorité d'un pontife infaillible, il n'y a plus d'autorité visible, souveraine sur terre. Et par conséquent, et c'est ça qui nous fait tous souffrir, il n'y a plus d'autorité visiblement, officiellement, légitime, chez plus personne, chez les évêques comme chez les prêtres, pour deux raisons, deux solutions. Soit parce que les uns n'auront pas le mandat ecclésiastique qu'ils auraient dû avoir du sommet de la chaîne, soit parce que les autres tiendront bien un mandat ecclésiastique, mais d'un antichrist, pour reprendre les termes même de Monseigneur. Alors, pour ceux qui pensent, selon la logique de Mgr Lefebvre, que le pape resterait pape malgré ses hérésies, la situation n'est pas mieux, elle ne résout rien au problème. Elle le complique. Ça ne résout rien. Qu'est-ce qu'un pape infaillible qui n'est plus crédible? Alors, en tout cas, quel que soit le sens dans lequel on prend notre situation, la réalité est évidemment effrayante. Et notre Seigneur nous le prévenait de cela. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et s'il n'y a pas la foi, c'est le chaos qu'il trouvera sur terre. Donc le chaos auquel nous assistons, qui est dû à l'apostasie, Et sa conséquence et son châtiment, eh bien, c'est les ténèbres. C'est l'absence d'autorité, qu'elle soit temporelle, qu'elle soit religieuse. Il n'y a plus d'autorité légitime, au sens plaigné du terme. Bien sûr, il y aura toujours quelques autorités légitimes, ponctuelles, fractionnelles. Le père de famille reste l'autorité légitime de la famille. Oui, mais en dehors de là, où est l'autorité légitime? Compliqué, très compliqué. Et c'est pourquoi le père Calmel, je pense, donnait ce conseil en 1971. Le combat chrétien doit continuer par de petites entités, unités, qui refusent d'entrer dans je ne sais quelle organisation systématique et universelle. C'est pas possible, c'est plus possible aujourd'hui. Dans ces diverses unités, l'autorité est réelle, indiscutée. Le problème du chef ne se pose pratiquement pas. L'œuvre est précise, l'œuvre à faire est précise. Et il sentait donc très bien que partout ailleurs, l'autorité serait discutée, parce que l'Église était frappée, la société d'abord, et l'Église ensuite, ultimement, était frappée à sa tête, et donc par conséquence, le monde entier. Donc déroutée. Je conclue par quelques citations qui montrent combien des auteurs avaient prévu et vu cela après 1789. Donoso Cortés, je vous ai déjà cité, un homme très brillant, écrivait en 1849. Il disait en gros à l'époque, soit on fait une dictature pour remettre de l'ordre, soit c'est fini pour l'Europe. Il avait vu la logique. Et donc il écrivait, il connaissait la faiblesse de l'homme. Je tiens pour prouvé et évident qu'ici-bas, le mal finit toujours par triompher du bien, à cause de nos blessures. Et que le triomphe sur le mal est réservé, si l'on peut s'exprimer ainsi, à Dieu personnellement. Et c'est Jésus-Christ qui fera cesser le mal. Lui seul en a le pouvoir et la puissance, et il le fera à la fin des temps. C'est pour ça que je vous engage déjà à prier pour que notre Seigneur vienne le plus vite possible. Il faut prier pour que la fin des temps vienne le plus vite possible. Le cardinal Pie, en 1859, vous connaissez cette phrase très connue, « L'Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à la fin des temps à des proportions individuelles familiales. » Des individus parsemés ou des familles isolées. C'est cardinal Pie qui affirme cela de l'Église de la fin des temps. Là, donc, les hommes apostasient et Satan règne, et avec lui, bien, règne le mensonge. Il est homicide et menteur, dit notre Seigneur. Et donc, c'est un mensonge qui est bien plus terrible qu'on ne l'imagine habituellement. C'est un mensonge de type orwellien, vous le savez, où les mots caractérisent le contraire de ce qu'ils devraient désigner. La société, c'est plus une société, c'est une dissociété, c'est le contraire, et pourtant on utilise le mot. La démocratie, souvenez-vous, ce n'est pas une démocratie, c'est le paravent de la dictature juive. La souveraineté des nations n'existe pas, c'est l'administration des multinationales. Le droit, ce n'est plus du droit, c'est fait par des mafieux pour leur profit privé. Effectivement, bien sûr, dans des aspects plus bas, il y aura encore un aspect droit, un aspect justice, évidemment. Mais de manière globale, de manière conceptuelle et mondiale, ce n'est plus du droit. L'élite qui s'est autoproclamée et qui nous gouverne, c'est une mafia qui est prédatrice. Prenons dans l'ordre religieux, la messe Paul VI, ce n'est pas une messe, c'est une synagogue protestantisée. Tous les mots sont inversés, tous les mots sont dans l'imposture. La doctrine de l'Église, c'est plus la doctrine de l'Église, c'est un relais de la doctrine maçonnique. Le pape, c'est plus un pape, c'est un antipape. Il fait le contraire de sa fonction. Et l'Église catholique, nous l'avons vu, eh bien, c'est plus l'Église catholique. Ou si vous préférez rester dans le système de Mgr Lefebvre, eh bien, l'enseignement de l'Église catholique n'est plus catholique. Mais ce n'est guère mieux. Ça résout rien. C'est le problème. Et on reste dans les ténèbres. On reste dans les ténèbres, quelle que soit la solution adoptée. Et donc dans ce chaos, eh bien, on le voit bien, tout est illusion pour tromper les âmes. C'est vraiment l'heure des ténèbres, c'est ça. Donc le soleil qui s'obscurcit et les étoiles qui tombent du ciel, ça symbolise le ténèbre, et pas les ténèbres cosmologiques, pas celles des yeux, mais les ténèbres de l'esprit, le ténèbre social, le ténèbre humain. Voilà ce que veut dire grand tremblement de terre, soleil noir, abomination de la désolation dans le lieu sien, les faux Christ, les faux prophètes, les prodiges inouïs, ces cieux ébranlés. Et donc si ces jours, dit Jésus, n'avaient été abrégés, eh bien nul vivant n'échapperait. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors prions pour que ces jours soient abrégés. Et en attendant, eh bien faisons comme le demande saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, produisons autant que possible du fruit par nos bonnes œuvres, prières et aussi des œuvres temporelles, sociales, dans notre famille et puis dans le monde social, là où on peut. Il faut supporter aussi ce monde avec patience, demande saint Paul. Il ne faut pas être complice du monde, mais il faut en souffrir avec patience. Et nous rappeler bien que le monde de toute façon finira dans le chaos, dans le feu, et que ce monde n'est que provisoire, et que notre grande joie, pourquoi on peut encore supporter et souffrir avec patience, parce que nous savons que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous n'appartenons pas à Satan et à ce monde qui va périr. Nous avons été transportés dans le royaume de son Fils, rachetés par son sang. C'est notre consolation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.